De retour à Délirium environnemental, le magazine d'information en environnement. Pour ceux qui nous écoutent sur Internet, troisième et dernière partie d'émission, on a le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-François Dupuis. Moi, j'ai le goût de vous dire que Jean-François Dupuis, c'est d'abord et avant tout un citoyen. Un citoyen qui a été confronté à des situations intolérables et qui a décidé d'agir parce que la loi n'était pas de son côté. Ce que vous avez peut-être entendu dire, c'est qu'il y a un groupe de 7 écologistes, et c'est pour ça que moi je dis 7 citoyens, à tendance écologiste peut-être, qui sont accusés, qui sont poursuivis en justice, parce qu'ils sont allés s'enchaîner dans les bureaux de Paul Martin, en fait au bureau de circonscription de Paul Martin. C'était en mars 2004.
Exact.
Et puis, donc, ils sont poursuivis par Bennett Environnement. Mais d'abord, on va permettre aux gens de vous entendre. Jean-François Dupuis, merci beaucoup d'être venu nous voir pour nous parler de tout ça. Ça va bien?
Ça va très bien, merci. Juste faire une petite correction, on n'est pas poursuivis par Bennett, mais bien par la couronne, la Cour municipale à Montréal.
C'est vrai. Pour avoir occupé les bureaux, vous êtes soumis à 3 chefs d'accusation.
En tout, on a 4 chefs d'accusation. Il y a 3 chefs de méfaits, dont occupation illégale d'un bureau, empêcher la jouissance d'un bien d'autrui, bris de plus de 5 000 $.
Ça, c'est pas la police en défonçant le mur qui a fait ça?
Exactement. On va y revenir. Mm-hmm. Et le dernier, entrave au travail des policiers. Donc, évidemment, une occupation va toujours être une entrave au travail des policiers puisqu'on va refuser de sortir jusqu'à temps qu'on obtienne ce qu'on veut.
C'est très clair. Avant peut-être de parler de quelque chose qui choque peut-être l'auditeur, parce que j'avoue que moi, ma première réflexe, c'était de dire, oui, mais la loi, c'est ça, vous avez fait quelque chose de pas bien. Ça, c'est si on le prend seulement d'un côté, mais je pense que c'est important de mettre toutes les choses sur la table avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous vous opposiez à quelque chose.
Exact.
Vous vous opposez à la construction, en fait, qui est tellement bien entamée qu'on peut même plus s'y opposer parce qu'ils sont trop avancés, d'un incinérateur de déchets toxiques, en fait, de sols contaminés, principalement aux hydrocarbures et aux créosote pour commencer, mais ensuite contaminé à plein d'autres choses.
Exactement.
Qui se construit au Nouveau-Brunswick par l'entreprise qui s'appelle Bennett Environnemental. Tu peux dire n'importe quoi quand tu as le mot environnement dans ton nom. Donc, c'est la raison pour laquelle vous vouliez agir.
Exact.
Qu'est-ce qui est problématique? Parce que moi, je peux en parler encore longtemps, mais...
Ben, tout d'abord, c'est important de dire que cet incinérateur-là, en fait, tu l'as dit, est pratiquement terminé de construire. Là, ils sont à l'étape où ils recherchent des sols pour effectuer les premiers tests de brûlage qui vont leur permettre d'obtenir un permis d'exploitation permanent. Le problème, si on prend par exemple ce type d'incinérateur-là, l'incinérateur à Belle Dune va brûler majoritairement, on parle de 85%, des sols contaminés en provenance des États-Unis. Sauf qu'un incinérateur de ce type-là est illégal aux États-Unis parce que c'est un procédé trop polluant. Donc, déjà, juste ça, ça donne la mesure de ce qui se passe à Belle Dune en ce moment.
Peut-être spécifier que Belle Dune, c'est déjà reconnu comme la 7e ville la plus polluée au Canada et c'est peut-être pour ça qu'ils se sont dit « Ah, il y en a déjà plein de problèmes, on en a ajouté. »
Bien, souvent, on va citer à ça, pas juste à cause de la pollution, c'est effectivement la 7e ville la plus polluée au Canada et il y a 1950 habitants à Belle Dune. Donc, ça représente environ 1,29% de la population canadienne.
Donc, mobilisation qui est peut-être moins impressionnante. Quoi qu'il y a quand même une pétition de 60 000 noms qui a été signée. Il y a plein de procédures légales qui ont déjà été entreprises par la coalition Retour à l'expéditeur.
Exactement.
Et ça n'a pas suffi.
La coalition de Retour à l'expéditeur regroupe en tout 129 organismes. On parle de 18 municipalités qui ont voté des... Bon, je ne sais pas comment nommer ça, je l'ai ici. Qui ont pris officiellement position contre l'incinérateur de Bennett à Belle Dune. Et on parle de 18 municipalités sur 29 dans la baie des Chaleurs. Donc, c'est plus que la moitié. Et la coalition Retour à l'expéditeur, en collaboration avec le groupe Environnement Vie, Environnement Vert Plus, les Micmacs de Gaspésiac, ont amassé une pétition de plus de 60 000 noms à ce jour. Quand nous, on a occupé les bureaux de Paul Martin, la pétition était à 47 000 noms. En 2 ans, il y a eu des recours collectifs par le comité de citoyens de Belle Dune, il y a eu des marches, il y a eu des manifestations, il y a eu des rencontres avec les ministres, il y a des médecins qui se sont prononcés. La compagnie Bennett a produit une simili-étude qui n'a pas été vraiment faite dans le cadre de Bennett à Belle Dune. En fait, ils ont repris l'étude qui a été faite pour Saint-Ambroise, parce qu'il y a un incinérateur de Bennett au Québec.
C'est la compagnie... Qui a déjà été poursuivi d'ailleurs.
Exact. C'est la compagnie Récupère Sol qui est une filiale de Bennett Environnemental, et cette compagnie-là été poursuivi pour stockage illégal de BPC. Et maintenant, on a déjà répertorié qu'il y avait des taux de dioxine et de furane dramatiquement élevés sur le sol aux alentours.
Ils ont d'ailleurs dû stopper leurs activités tout récemment.
Suite
exactement.
À cette,
ça va faire bientôt 6 mois que l'usine est arrêtée suite à l'ordonnance du ministère de l'Environnement du Québec qui est en train de faire une étude. Donc, on a vraiment déployé toutes les mesures qu'on connaît, on les a déployées et ça n'a absolument rien donné.
Juste pour revenir aux effets, aux impacts, parce que là, on parle de mesures de procédure, on a nommé des noms comme ça, mais peut-être que dans la tête des gens, ça ne sonne pas les cloches qu'il faudrait. Fait que juste pour être sûr qu'on sonne les bonnes cloches, on a parlé de dioxine de furane. Les dioxines et les furanes sont reconnues comme étant des perturbateurs endocriniens qui s'attaquent aux systèmes hormonaux humains et animaux. On disait tout à l'heure que la ville de Belle-Dune est la 7e ville la plus polluée au Canada, mais il faut savoir qu'il y a des usines qui sont déjà installées là-bas. Si je ne me trompe pas, c'est la Noranda qui travaille avec le plomb et qui achète déjà, pour s'assurer le silence des pêcheurs, 3600 kg de homards par année parce qu'ils sont trop contaminés au plomb.
J'ai pas exactement les chiffres, mais je sais qu'il y a des pêcheurs qui recueillent effectivement les homards pour s'en débarrasser, les jeter carrément, parce que ces homards-là sont contaminés et sont impropres à la consommation. Et évidemment, ça coûte beaucoup moins cher de faire disparaître cette preuve-là plutôt que d'assumer les éventuellement retours de la part des gouvernements, de la population. Mais je ne veux pas trop m'avancer parce que je connais moins le dossier de la Noranda.
Mais je suis allée voir un peu parce que ça m'inquiète, moi, ces choses-là. Le taux de plomb en 2002 qui a été calculé dans la végétation dépassait près de 50 fois les normes internationales. Plus près de la fonderie, ça dépassait de 250 fois les normes. Et juste où est-ce que l'édifice d'exploitation est, vraiment concrètement, c'était 2500 fois au-dessus des normes de concentration permises. Alors là, on ne parle pas d'un lieu... c'est un lieu idyllique. C'est magnifique, la baie des Chaleurs, etc. Sauf qu'on parle de problèmes de santé majeurs et ça ne s'arrête pas aux frontières, tout ça.
Effectivement, il y a un problème.
On va revenir sur les problèmes. Si tu permets, on s'arrête tout de suite et au retour, on poursuit parce que c'est excellent. Peut-être trop d'informations. Tout ça en même temps, j'ai mal au cœur, je me sens pas très, très bien. Là. De retour à Délirium environnemental, où je vous rappelle, on a le plaisir de s'entretenir avec Jean-François Dupuis, qui est l'un des 7 accusés par la ville de Montréal, par la cour municipale, pour avoir de 3-4 chefs d'accusation, parce qu'ils sont allés, c'est pas le bon mot, parce qu'ils sont allés dans les bureaux de Paul Martin pour alerter l'opinion publique et peut-être l'opinion de Paul Martin sur les dangers de l'implantation de cet incinérateur-là. On vient de vous dire que toutes les mesures légales n'avaient pas porté fruit, et donc vous avez décidé d'agir. Qu'est-ce qui fait que des Montréalais décident d'aller investir le bureau du premier ministre pour le faire réagir?
Bien, déjà au départ, ça concerne tout le monde, dans le sens que la pollution n'a pas de frontières. En tant que citoyen, comme tu le disais au début, c'est de notre devoir de prendre soin de nos régions respectives en espérant que les gens de par la terre vont faire tous la même chose. Mais évidemment, la responsabilité au départ, selon moi, n'incombe pas aux gens. C'est-à-dire que le problème environnemental vient surtout des grosses industries, tout ça. Donc, il faut faire attention dans le discours, responsabilisez-vous à la maison, tout ça. Oui, certainement, mais c'est ridicule parce que ça rend la responsabilité tout à fait diffuse, la responsabilité qui tombe sur les entreprises. Sauf que c'est comme si on demandait aux citoyens, on dirait aux citoyens, on va vous installer un radar dans votre char, puis comme ça, si jamais vous dépassez la limite de vitesse, vous vous donnerez une contravention vous-même. Mmh. C'est exactement ça qu'on fait avec les entreprises polluantes comme Bennett Environnemental, tout ça, c'est elles-mêmes qui sont responsables de produire des études et évidemment, les sources sont très intéressées.
Nous, on dit toujours que c'est comme envoyer le renard contre les poules.
Exactement. Donc, c'est important d'agir et le but de tout ça, c'est que ça fait 2 ans qu'il y a une très grande mobilisation dans la baie des Chaleurs et à l'extérieur de la baie des Chaleurs, on n'en entend pas parler. Pourtant, ça concerne autant les Montréalais. Juste, par exemple, la compagnie Bennett, dans son permis d'exploitation, doit, une fois que les sols sont nettoyés, comme on dit, parce que les sols sont nettoyés, mais c'est pas des sols qui vont servir à faire un jardin après. La majorité de ces sols-là doivent quand même être enfouis parce qu'il y a des métaux qui ne peuvent être éliminés par l'incinération. Donc, pour vous donner un exemple, un des sites d'enfouissement est juste ici à Ville-la-Salle, où est-ce qu'on a occupé les bureaux de Paul Martin. Il y a d'autres sites à Saint-Ambroise, il y en a d'autres en Ontario. Donc, de ce point de vue-là, ça concerne tout le monde. Mais c'est pas juste ça. On est sur le bord d'une crise écologique massive qui ne respecte aucune frontière. Et ça, ça va se produire dans les 50, dans les 100 prochaines années. Et évidemment, les effets des pays occidentaux, les pays riches, industrialisés, vont foutre la terre en l'air, finalement. Donc, nous, on a une responsabilité encore plus grande parce que c'est nous qui avons créé cette pollution-là qui va atteindre les gens de toute la planète.
Et donc, vous êtes allé vous enchaîner dans le bureau de Paul Martin.
Effectivement. On a occupé les bureaux de Paul Martin. C'était une occupation tout à fait pacifique. On s'est enchaîné après les grilles qui était devant la porte, il y avait des grilles après la porte, là, donc pour empêcher la police de rentrer par la porte. Donc évidemment, de cette façon, on les forçait à négocier avec nous, c'était le but de l'exercice. Et ce qu'on demandait, c'était une étude d'impact, un moratoire sur la construction, jusqu'à ce qu'il y ait une étude d'impact qui démontre, hors de tout doute, qu'il n'y a aucun danger.
Un moratoire, ça veut dire arrêter jusqu'à ce que quelque chose...
Et puis, donc, c'est ça. Et pour en revenir un peu au problème, c'est que avec les dioxines et les furanes, on parle des pires contaminants jamais créés par l'homme. C'est des contaminants qui sont créés suite à l'oxydation ou l'incinération. C'est deux choses qui sont les mêmes, en fait. Et puis, les dioxines et les furanes sont bioaccumulables. Donc, si toi, tu as des dioxines et des furanes dans ton corps, ben, quand tu vas avoir un enfant, tu vas l'allaiter, tu vas donner tes dioxines et tes furanes à ton enfant. Et ces polluants-là ne s'en vont pas, ils s'accumulent. Donc, on lègue un héritage...
Toxique.
Aux futures populations. Et ce qui est accumulé va rester dans la chaîne alimentaire et ça va partout. Ça va dans les plantes, ça va dans les animaux, ça va dans l'eau. Et évidemment, c'est la chaîne alimentaire qui remonte évidemment jusqu'à l'homme en bout de ligne. Donc,
J'inviterais peut-être les gens qui veulent s'informer plus amplement. Communicationnellement, c'est vraiment intéressant. C'est triste pour vous que vous allez peut-être vous retrouver avec un dossier criminel, mais d'un autre côté, c'est magnifique parce que vous nous donnez l'occasion d'en reparler. Les médias ont besoin d'un événement pour qu'on puisse parler de quelque chose. Et donc, il y en a qui le font plus vite que tout le monde, comme d'habitude. Les gens du CEMAC, le Centre des médias alternatifs du Québec, ça a été publié d'ailleurs par le groupe Bennett en procès. Il y a la déclaration des 7 accusés dont tu fais partie, Jean-François Dupuis. Et si vous permettez, avant d'aller en pause, je vous lis juste un petit passage parce que moi, ça m'a touché. Nous considérons notre action comme étant pleinement légitime parce que justifiée par l'imminence d'un mal plus grand pour l'intérêt public. En alertant la population sur les dangers bien réels que représente l'incinérateur de la compagnie Bennett pour la santé de la population et de la biodiversité environnante, nous considérons avoir agi conformément à notre devoir civique et à notre responsabilité face au bien commun. Retour à Delirium environnemental. Il nous reste presque plus de temps. J'ai l'impression qu'on aurait pu en parler pendant au moins une semaine sans arrêt, 24 heures sur 24. On va aller sur l'aspect légal de la chose parce que c'est un procès. Ces gens-là sont accusés. ils vont peut-être avoir un dossier criminel, donc ça va être des criminels. La question que je posais en début d'émission, c'était quand la loi n'est même pas à même de protéger l'intérêt public, qu'est-ce qui nous reste? Parce qu'en fait, dans les faits, là, vous avez posé une action, ce qu'on pourrait appeler de désobéissance civile. Vous avez agi de façon criminelle en allant sur un lieu, en affectant une propriété privée. Ça, j'imagine que c'est l'espèce d'argument officiel, c'est ce qu'on a retenu contre vous.
Exactement. Mais pour nous, on voit ça d'une façon tout autre. C'est-à-dire qu'on voit cette entreprise-là qui est en train de polluer de façon effroyable l'environnement, qui est en train de contaminer des populations au complet, que ce soit dans le cas de Saint-Ambroise, de Belle-Dune ou que ce soit ailleurs dans le monde. Et pour nous, les vrais criminels, ben c'est justement, c'est Bennett, c'est eux qui sont responsables de ça. Et la seule raison pourquoi on en est arrivé là, c'est parce que toutes les autres mesures légales, les rencontres, les recours collectifs en cours, rien ne fonctionnait. C'est important de dire aussi que le Canada, à travers le fonds de pension du régime des retraites, a financé la construction de Bennett à Belle-Dune. Ils ont acheté 1 130 000 actions au coût de 24 $ l'action, ce qui monte à environ 30 millions de dollars. Ils ont complètement financé la construction de l'usine. Et évidemment, ils avaient...
C'est laid, hein, ça pue.
Ça pue, c'est le cas de le dire. Mm. Et on a les preuves à l'appui. Donc, normalement, c'est pas dans les... C'est pas normal d'acheter des actions aussi élevées. Et il y a tellement de choses à
Nicolas,
dire.
Milo.
Une autre chose qui est peut-être importante de préciser aussi, aux États-Unis, pour un déchet qui est contaminé, l'entreprise en est responsable tout le long de la vie du déchet. Mmh. Donc même quand il est entreposé à quelque part, elle en est responsable. Donc les États-Unis, eux, ce qu'ils veulent, c'est envoyer leurs déchets ailleurs. Et le Canada, présentement, en permettant des industries comme Bennett, mais on pourrait penser aussi à l'incinérateur à Mercier sur la rive sud de Montréal, on agit en plein pays en voie de développement. C'est une économie de pays en voie de développement. Mmh. Et par des actions, justement, des gouvernements de pas juste permettre, mais en plus, on subventionne ça, eh bien, c'est on rentre complètement dans ce moule-là. Pourtant, on se déclare être le plus grand, plus beau pays du monde.
C'est d'autant plus paradoxal parce que c'est pas comme si c'était des régions qui avaient besoin de ce type d'apport-là. C'est une région, quoi, ultra-touristique, la pêche, etc., l'aquaculture.
Mais ça aussi, c'est intéressant parce qu'il y a la Convention de Bâle qui a été ratifiée par plusieurs pays, exactement, qui est sur les déchets dangereux. Et cette convention-là interdit le transfert des ou des déchets toxiques des centres vers la périphérie ou des régions riches vers les régions pauvres. En fait, le traité aborde la question des pays riches vers les pays pauvres, mais on assiste exactement à la même chose, mais à l'intérieur de l'Amérique du Nord, et on ne parle pas du transfert des déchets toxiques des régions riches ou des grands centres vers les régions pauvres, comme c'est le cas vers Belle-Dune, vers Saint-Ambroise, vers... aussi évidemment les polluants organiques polycycliques que sont les dioxines et les furanes sont supposés être complètement exclus. On ne devrait plus produire ce type de polluants-là depuis que la Convention de Stockholm a été ratifiée en 1972.
Sur les polluants organiques persistants qui visaient l'élimination de 12 produits reconnus comme étant des polluants organiques persistants, c'est la bioaccumulation de laquelle on parlait tout à l'heure.
La sale douzaine.
La sale douzaine, mais c'est pas encore fait. Donc, problème, je pense qu'il y a ça, il faut revenir à ça, c'est pas le fait, c'est pour ça que j'aimais pas ça, le titre qu'on voyait partout, des écologistes arrêtés ou accusés, etc. C'est parce que, non, là, c'est pas une question d'écologie, là, on parle d'un problème de santé publique majeur et pas circonscrit dans l'espace ou le temps. C'est comme une petite bombe à retardement qui va continuer de tic-taquer puis d'empoisonner massivement les populations et les écosystèmes.
C'est certain aussi qu'en ce moment, le discours est à la contestation du projet de Bennett. Mais c'est important de dire que c'est pas le complexe du « pas dans ma cour ». Et à travers ça, par exemple, il y avait une conférence publique en fin de semaine à l'UQAM où on abordait deux sujets importants. Premièrement, une vulgarisation des dangers que représente un incinérateur. Mais après ça, on abordait les questions telles que « capitalisme écologique, est-ce possible ?» Et les experts, les politologues le disent. C'est de notre côté. Dans le système dans lequel on vit, on ne peut avoir un développement viable ou soutenable ou durable. En fait, développement durable a été complètement travesti de son origine.
On en parle souvent, t'inquiète.
Okay, excellent.
Parce qu'en fait, on sait qu'au départ, c'était sustainable development qui veut dire soutenable et pas durable comme dans durée de temps. C'est complètement autre chose. On devrait plutôt parler d'un développement viable ou soutenable, mais en tout cas, pas de développement durable. Ça, c'est certain.
Donc, c'est important de remettre en cause les sources du problème et non pas se battre à chaque fois contre un incinérateur qui naît, ensuite il va y en avoir un autre, et de remettre vraiment en cause les sources du problème.
Mm-hmm, tout à fait. Arrêter de faire du bout de tuyau, du cas par cas, à la limite, même si on est un exemple ici au Québec avec le BAP, quoique maintenant c'est M. Cosgrove qui est à la tête du BAP, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais que justement, on ne peut pas faire du cas par cas, puis vraiment, en mon nom personnel, puis je me porte porte-parole des autres citoyens, merci, parce que c'est extrêmement important ce que vous faites, et puis communicationnellement parlant, je le disais et je le répète, c'est d'autant plus important, puis j'espère que les médias vont relayer votre message, parce que moi, ça me dépasse que des choses comme ça puissent se produire. On est en 2005, on parle de développement durable à tour de bras, puis on laisse des compagnies privées aller construire des incinérateurs de poison.
Contre le gré de 60 000 personnes.
Oui, clairement. Ouais. Est-ce qu'on pourrait être plus clair que ça? Je pense pas, non, vraiment.
Ça, c'est pas une occupation.
Et donc, légale. Vous, personnellement, en tant que citoyen, vous êtes accusé, vous allez peut-être avoir un dossier criminel, entre autres choses. Je pense que dans le milieu environnemental, ça va être très bon pour votre popularité et votre image, mais ça, c'est autre chose. On n'est pas beaucoup. Fait que vous allez devoir payer aussi, j'imagine, en partie. Il y a des frais qui sont associés à une poursuite en justice.
Ben là, c'est entre les mains du juge. Évidemment, ça peut varier beaucoup. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, c'était le premier jour du procès. C'est très intéressant, par exemple, pour ceux qui diraient « Ah, méfait de 5 000 $ et plus, c'est gros. » Mais justement, aujourd'hui, ça a été une excellente journée. Puis on a démontré que, dans le fond, ils nous accusent de 5 000 $ et plus. Mais comme il y a eu une occupation, ils en ont profité pour changer tous les meubles puis refaire le bureau complet. Puis
bien fait.
Ils nous refilent la facture comme si c'était à cause de nous qu'il fallait le faire. Donc,
pour ne pas arrêter de prendre
pour des comptes.
La gestion à la Paul Martin.
Non, mais c'est comme de la commandite, ça. Je voulais juste peut-être attirer l'attention de ceux qui nous écoutent, qui auraient le goût de prendre part de façon festive et de vous encourager, de vous démontrer leur appui, qu'il y a un concert bénéfice qui va avoir lieu le jeudi 3 mars à 20h au Café Campus, c'est sur la rue Prince-Arthur. Ça coûte 15 $ rentrée, mais c'est Caravane, Kaya et Caliroute qui vont être là pour vous divertir toute la soirée. Et ça va servir d'événements bénéfices, donc pour financer soit le procès ou soit vos autres activités qui, nous l'espérons, feront jaser les gens parce que c'est important. On va devoir s'arrêter ici parce que le temps file. Jean-François Dupuis, tu restes avec nous. On va faire coup de cœur, coup de masse. Je sais pas pourquoi, je pense qu'on va parler de Bennett. C'est déjà la fin de Délirium environnemental. Comme toujours, ça passe trop vite. Si c'est la fin de Délirium environnemental, ça veut dire qu'on n'est pas rendu à cette partie qu'on aime tant, parce qu'on dit sus à la censure et on se fait le plaisir des coups de cœur, coups de masse et au calendrier cette semaine.
Et je me lance. Ce n'est pas parce que nous sommes environnementalistes que nous ne sommes pas citoyens, tu nous l'as dit tout à l'heure. Et bien, je me lance Jean Charest ce 1er mars qui nous dit que les étudiants québécois et québécoises sont ceux qui sont les plus favorisés au monde. Mais quand on a quelque chose qui va bien comme ça, on en est fier, on l'appuie et on l'entretient. Alors des arguments comme ça, gardez-les chez vous puis retournez donc dans votre patelin dont je parlerai plus tard.
Puis monsieur, parlez-moi pas de développement durable puis de coupure dans les prêts.
Vous savez pas ce que ça veut dire.
Non, vraiment, vraiment.
Coup de masse à Bombardier Transport qui, malheureusement, produit des trains pour un peu partout dans le monde, entre autres tout récemment au Tibet, et ne fait aucun effort pour que ça se passe ici, chez nous.
Mais je suis pas sûr que c'est de leur faute à eux autres, c'est ceux qui les commandent pas qui sont à blâmer peut-être ici. Coup de cœur, coup de masse, coup de masse, coup de cœur, Étienne Côté-Paluc.
En fait, bonjour tout le monde, j'encourage en fait tous les gens à porter le petit carré rouge qui s'offre donc à supporter, c'est ce qu'on vient de dire?
Ah oh. Oh, non, pas du tout, okay. Parce que là on allait faire la farce que c'était du papier.
Du papier, oui, d'accord. Mais non, donc voilà, le petit carré rouge qui permet, on explique aux gens parce qu'ils comprennent sûrement pas de quoi on parle. En fait, ce petit carré-là, c'est pour affirmer donc qu'on supporte les étudiants qui sont contre les coupures de 103 millions dans les bourses étudiantes. étudiants. Donc, allez-y, nous, l'émission, ceux qui ne savent pas encore, est enregistrée à l'UQAM, donc on est très solidaires avec eux. Et un petit message en passant pour ceux qui s'intéressent à la grève, allez voir grève.qc.ca, toutes les informations, les dernières informations, qui est en grève, tout ça, et là-dessus.
Merci, Étienne.
Eh bien, je vous ramène à Sherbrooke, je viens de vous en parler. Eh bien non, Sherbrooke ne produit pas, on le dit souvent, que des premiers ministres stupides. Après avoir offert son service d'autobus pratiquement gratuitement à ses étudiants, on le rappelle encore, eh bien Sherbrooke, il va encore de l'avant dans un projet de réaménagement du centre-ville où des ingénieurs avaient un projet complètement farfelu, horrible. Ils ont convoqué un artiste qui a jugé le projet, qui a dit justement, c'est horrible, eh bien ils ont donné le contrat à l'artiste. Et maintenant, vous pouvez voir au croisement des rivières Magog et Saint-François à Sherbrooke une superbe structure artistique digne des plus grands faubourgs européens. Bref, allez faire un tour à Sherbrooke et allez crier chou charret.
Chou charret, chou charret, chou. Eh bien, moi, j'y vois d'un coup de cœur pas très original. J'ai de l'air d'une vendue. Ben oui, je le suis. Moi, j'aimerais donner un gros coup de cœur aux 7 accusés, dont Jean-François Dupuis, parce que par vos actions, par votre cohérence mentale, qui n'est malheureusement pas donnée à tous dans cette belle société, vous nous permettez de parler de ces choses absolument importantes qui sont l'environnement, la santé et surtout notre avenir et peut-être celle de nos enfants si un jour, peut-être, on arrive, s'il n'y a pas trop de perturbateurs endocriniens dans l'environnement.
Moi, j'ai un gros coup de cœur à lancer au Cambodge, un des pays les plus pauvres de la planète qui a décidé de faire le virage à la production de riz biologique. Ils sont tannés de se faire noyer de pesticides provenant de la Thaïlande et du Vietnam et ils ont décidé de non seulement faire le virage au bio, mais peut-être bientôt à l'équitable.
Eh bien, un petit dernier coup de masse à la municipalité de Lévis. Vous savez que le projet Rabaska, qui est important là-bas, un projet de port méthanier, eh bien, un référendum qui s'en vient. Eh bien, la municipalité veut étendre le référendum pour diluer l'opposition.
Coup de masse. N'importe quoi, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui de nos jours. C'est n'importe quoi. Hey, toute l'équipe qui a fait Delirium environnemental, Nicolas Milot, Hugo Lachapelle, merci beaucoup. Étienne Côté-Paluc à la régie, conception du site web que vous trouvez toujours au www.radiodelirium.net. Merci beaucoup. Jean-François Dupuis, notre invité cette semaine. Merci, on a presque le goût de te réinviter plus tard pour savoir comment ça s'est passé, ce procès-là. Qu'est-ce qui va se passer? On veut savoir. Merci, merci beaucoup. Moi, c'était Sofiane Legendre, la voix de la fille à Delirium environnemental. On se retrouve la semaine prochaine. On va encore vous parler d'environnement, de santé, d'affaires écœurantes qui se passent sur notre planète. Soyez là.
On va essayer de battre un record. Développement durable, développement durable, développement durable, développement durable.
Mais on va le faire avec un sourire.
Un gros coup de cœur à Matthew Herbert.